Bonjour. Incapable de rembourser une dette à l'échéance, on opère une saisie de vos biens. Dans quelles circonstances cette saisie est-elle légale? Comment l'exécuter? Tous les biens ne peuvent pas être saisis, c'est un principe de droit. Dans certaines circonstances, l'on peut procéder à une vente aux enchères pour déduire la créance due. Dans la pratique, on assiste à des saisies illégales ou à des abus pendant la vente aux enchères. Le FIDA procédera le 12 février prochain à une vente publique au port de Matadi. Cette vente concerne les marchandises stockées au port et qui n'ont jamais été déclarées par leurs propriétaires, mais aussi les marchandises non dédouanées après un délai de 2 mois. Maniema, la majorité de la population de la cité minière de Kailo, anciennement concession de la Sominki, société minière du Kivu, s'adonne à l'exploitation artisanale de la cassitérite. Cette exploitation réalise des grandes productions, allant jusqu'à 70 tonnes par mois. Dommage que les accidents avec mort d'homme surviennent dans les chantiers souterrains. Autre conséquence, la déperdition scolaire. La méningite tue. Les plus grandes victimes sont les enfants et les nourrissons. Maladie endémique, pourtant elle est mal connue lorsqu'elle frappe. La famille se trouve dans une situation qu'elle a du mal à gérer. Qu'est-ce que la méningite? Comment peut-on l'attraper? Comment la soigner? Comment la prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? On le saura aujourd'hui. Au Capillaction, c'est bel et bien parti pour cette nouvelle semaine. Alors, on commence par une situation qui arrive souvent. Vous nous suivez maintenant, peut-être que vous êtes en route pour un parquet, pour le commissariat de police, pour les tribunaux, parce qu'il y a une affaire de dette qui vous oppose à quelqu'un d'autre. Il arrive que vous soyez incapable peut-être de la rembourser, cette dette, à l'échéance. Le créancier peut intenter un procès et le gagner. Le juge peut condamner le débiteur au remboursement de la dette et au paiement des dommages et intérêts. Si le débiteur est incapable de payer, le tribunal peut ordonner une saisie conservatoire de certains de ses biens à l'échéance du délai ou pendant que la procédure est en cours. Le tribunal peut, à la fin, ordonner l'exécution forcée du jugement. On peut alors procéder à une vente aux enchères. Dans la pratique, on assiste à des saisies illégales ou à des abus pendant la vente aux enchères ou pendant l'exécution forcée du jugement. Mais souvent, les victimes ne savent pas qu'à leur tour, elles peuvent intenter un procès en action recursoire pour retourner dans leurs droits si jamais il y a eu des abus. Alors, vous dites que je raconte une drôle d'histoire. C'est peut-être avec des termes plutôt juridiques, mais ça se passe souvent comme ça et vous vous sentez abandonné par la loi parce que vous ne comprenez pas comment ça se passe. Alors, on va essayer de vous aider en recevant des spécialistes, notamment un avocat qui va venir tout à l'heure, et puis un huissier de justice, celui qui est chargé d'exécuter cela. Mais avant que nous ne recevions ces spécialistes du droit, on en parle d'abord avec Sylvie Sona. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes plutôt simples le problème que nous évoquons en début d'émission aujourd'hui?
En fait, comme vous venez de le dire, si je dois l'expliquer en des termes un peu plus clair, je dirais que je prenais d'abord un exemple. Mm-hmm. Vous me devez de l'argent, vous, Alter, vous me devez de l'argent.
C'est un exemple. Parce
c'est
que
un exemple. Je ne veux pas que vous... Effectivement, Alter ne me doit pas d'argent, mais je donne un exemple.
C'est un exemple. Oui.
Et on s'est tous les deux convenus que vous me paierez ce que vous me devez 3 mois après.
Oui.
Et après le laps de temps convenu, vous n'avez pu respecter votre engagement.
Mm-hmm.
Et moi, mécontente, j'intente une action judiciaire contre vous.
Mm.
Le verdict tombe et vous devez me payer non mon dû, mm-hmm. mais également me payer des dommages et intérêts pour les agréments causés.
Mm-hmm.
La justice vous donne 2 semaines pour vous exécuter. Une fois de plus, vous êtes incapable de le faire. La justice décide cette fois-ci de se saisir de vos biens. Elle décide donc de procéder à la saisie forcée de vos biens. C'est en deux termes assez clairs ce que vous devez dire tout à l'heure.
En gros, ça s'appelle une saisie conservatoire. Voilà.
Saisie forcée de biens.
Voilà. Mais où est le caractère illégal dans une action comme celle-là?
J'y arrivais, Walter, en se saisissant de vos biens. Ces personnes s'emparent de vos meubles, de votre lit, de votre télévision, de votre frigo, bref, ils prennent des effets qui vous sont presque indispensables. Or, la loi l'interdit. Mmh. Vous pouvez à votre tour porter plainte pour retourner dans votre droit. Donc, c'est le caractère illégal, les abus, c'est justement les biens qui ont été saisis.
Ils ne doivent pas être saisis.
Les lits, le lit, le
lit.
Frigo.
Oui.
Comment vous êtes censé dormir?
Ou matériel de reportage.
Tout à fait.
Moi, je suis journaliste.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Par exemple, vous êtes journaliste, on se saisit de votre dictaphone ou de votre nagra.
De
votre micro. Vous ne pouvez pas exercer votre fonction, donc c'est illégal.
Voilà.
On ne peut pas vous empêcher de vivre.
Mm-hmm.
C'est exactement
ça. Parce qu'il n'y a que de ce métier-là que que je peux, à un menuisier, je ne peux pas arracher la scie.
Votre métier vous permettra de payer votre dette.
Effectivement.
Donc, si vous ne pouvez pas l'exercer, ça ne sert à rien.
Voilà. Donc, il y a des biens qu'on ne peut pas saisir. Sylvie, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont été dans des situations comme celles qu'on vient de décrire, notamment lorsqu'il y a des abus?
Je dois vous dire, Walter, que ça a été très difficile pour nous de pouvoir rencontrer, de pouvoir recueillir un témoignage. Mm-hmm. Mais nous avons quand même eu un peu de chance. Nous avons rencontré une dame, mm-hmm. que je vous invite d'ailleurs à écouter. Mais Walter, nous vous prévenons que la voix a été modifiée techniquement afin de, qu'elle ne soit pas reconnue, afin que sa demande ne soit pas reconnue.
Elle a réclamé l'anonymat.
Oui, tout à fait.
Elle a exigé, c'est son droit d'exiger l'anonymat.
D'accord.
On va l'écouter.
Notre papa avait pris un crédit... Mais on est arrivé au mois d'août, l'échéance devait avoir lieu au mois de décembre de l'an 2004. Mais au mois, vers le mois d'août, juin ou août, ils sont venus, la société a assumé, a contacté son avocat conseil, on a saisi le tribunal de Lemba. Ils sont venus à la maison, ils ont saisi... les biens mobiliers, ils ont pris des salons, canapés, deux fauteuils, ils ont pris la chaîne musicale, la télévision en couleur, ils ont pris ils ont vidé aussi la salle à manger, hein, et ils sont partis avant même l'échéance.
Et comment ça s'est soldé? Est-ce que vous avez pu récupérer vos biens?
Jusqu'à présent, on n'a pas encore récupéré les biens.
Donc, ça fait plus d'une année. Est-ce que vous avez intenté une action judiciaire?
Pas encore. On est découragé puisque ici, la justice, ce n'est pas sérieux. Hein. C'est toujours la loi du plus fort hein, qui règne. Hein. C'est comme dans la jungle.
Voilà. Il faut le dire, techniquement, nous avons modifié la voix de notre témoin parce qu'elle a exigé l'anonymat et c'est son droit le plus absolu. Mm-hmm. Et nous lui remercions en passant. Madame, si vous nous écoutez quelque part, merci beaucoup d'avoir témoigné. Vous ne vous êtes pas reconnu vous-même, d'ailleurs, à part l'histoire que vous racontez. Vous avez su que c'est vous, mais votre voix, ce n'est pas celle-là, c'est la voix de quelqu'un d'autre qu'on vous a prêté. Donc, elle vient de relever quelque chose d'important, la loi de la jungle. On assiste à des pratiques contra-legem, c'est-à-dire contre la loi, comme on dit en droit. Et il y a beaucoup d'abus. Mais dites-nous, Sylvie, est-ce que cette famille a pu récupérer les biens de maison ou, notamment,
vous avez entendu cette femme Walter dire que depuis elle n'a pas intenté, que la famille n'a intenté aucune action judiciaire contre cette société, qui avait procédé à la saisie de ses biens. Cette famille ne l'a pas fait par manque de confiance envers la justice de notre pays, ou bien soit par ignorance, le fait que leur papa devait de l'argent, ils sont dignes, peut-être qu'ils sont dans leur droit, le fait de nous arracher nos biens, peut-être qu'ils ont le droit de le faire, peut-être par ignorance. Et pour répondre à votre question, cette famille n'a pas encore récupéré tous ses biens. Le salon est toujours vide.
Est-ce qu'elle a payé quand même sa dette?
Je ne pense pas, mais comment voulez-vous que cette famille puisse payer ce qu'elle doit à cette société dans la mesure où elle se sent lésée? C'est assez compliqué, vous l'avez remarqué, parce que cette action est menée par la justice elle-même. Imaginez que cette famille dise pendant cette saisie que les meubles ne sont pas concernés par cette saisie. C'est carrément prêcher dans le désert. Vous dites à un policier, non, vous n'êtes pas censé prendre cette chaise parce que la loi l'interdit. Ben, imaginez-vous, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas y croire. Puisque les personnes qui le font possèdent des autorisations. C'est la justice elle-même qui procède à l'exécution des biens. Et c'est les policiers qui prennent les chaises, qui prennent la télévision et vous, vous n'êtes pas censé dire que cette télévision-là, même si vous le savez, est-ce qu'ils vont exécuter ce que vous êtes en train de dire? C'est ça le problème.
Déjà, si je peux anticiper sur les aspects juridiques qu'on va évoquer avec Maître Ekamba tout à l'heure, la police ne peut pas être constituée gardien des biens saisis. C'est déjà aussi une pratique qui se fait couramment, mais c'est contre la loi. Ah. C'est l'huissier de justice sur ordre du greffier principal qui doit, n'est-ce pas, ça, je laisse à Maître Ekamba de raconter ça, parce que ça se passe comme ça. dans la pratique. Disons en passant, à plein midi, merci, on vient de recevoir votre réaction. Donc, il y a tout ça qui se pose comme problème. Comment mettre fin à ce genre d'abus? Et surtout, que faire dans ce cas? Nous allons avoir dans ce studio, donc, un huissier de justice, soit au téléphone dans le studio, ou alors, ça c'est qui est sûr, Maître Ikamba qui est déjà dans nos installations, expert, il est avocat, mais expert près l'ONG Avocats sans frontières.
Oui, Walter, j'aurais voulu relever une chose.
Je vous en prie.
Certains peuvent penser que nous prenons le parti des débiteurs. Mais non, c'est vrai que quelqu'un, vous me devez de l'argent, vous devez me payer cet argent. Mm-hmm. Il ne faudrait pas qu'on oublie que cette personne qui vous donne de l'argent a des droits aussi.
Évidemment, mais il y a des droits.
Il n'y a pas comme vous qui avez des droits. C'est vrai que vous allez prêter de l'argent à quelqu'un et que cette personne doit payer cet argent. Mais n'oubliez pas que cette personne-là aussi a des droits. Autant vous avez des droits, autant cette personne a des droits qu'il faudrait respecter.
C'est bien dit. Je me demande si vous n'avez jamais été dans des circonstances comme celle-là.
Je ne vais pas répondre à cette question.
Bon, on a bien compris. Les auditeurs aussi. Merci Sylvie, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes en mesure de recevoir Maître Ikamba. Maître Ikamba, bonjour.
Bonjour Walter.
Vous êtes expert, vous travaillez avec Avocats sans frontières, vous travaillez avec Maître Dominique, les auditeurs connaissent beaucoup, donc aujourd'hui vous êtes là à sa place. Donc il n'y a pas de problème, c'est pour Maître par rapport aux auditeurs. Aujourd'hui nous parlons de la saisie conservatoire. La première question que je vous pose, c'est est-ce que tous les biens peuvent être saisis?
Tous les biens du débiteur ne peuvent pas être saisis. Mmh. Je crois que nous sommes légalistes, il faut toujours se référer à la loi pour voir quels sont les biens qui ne peuvent pas être saisis. Je me réfère à l'article 127 du code de procédure, bien sûr, qui dit que ne peuvent être saisis le coucher et les habits du saisi de sa famille, donc du débiteur. Donc vous ne pouvez pas aller saisir un lit, un matelas, et les habits de votre débiteur ou de sa famille. En deuxième lieu, la loi dit qu'il ne faut pas saisir les livres qui sont indispensables à la profession. Par exemple, moi je suis avocat, vous ne pouvez pas venir saisir les livres de ma bibliothèque parce que ce sont ces livres qui me servent de documentation pour ma profession. Si vous êtes par exemple artisan, tout à l'heure
je vous ai suivi,
effectivement un menuisier, vous ne pouvez pas aller prendre sa scie ou son rabot, parce que ce sont les effets qui lui permettent effectivement de vivre. Alors, ce que la loi veut, c'est que le débiteur ne peut pas rester dans les dénuements total. Donc, s'il faut saisir les biens, ce sont les biens qui ne peuvent pas l'empêcher de continuer à vivre. Il y a également les provisions de bouche nécessaires à la nourriture du débiteur et de sa famille.
Donc on ne peut pas saisir une chèvre,
vous ne pouvez
une
pas.
Poule.
Justement, pour les chèvres, une poule, la loi dit également qu'on ne peut pas saisir une bête à cornes, ou trois chèvres, ou trois moutons. Bon, donc, c'est une énumération légale, mais vous comprendrez avec moi qu'elle est désuète. Ce que la loi veut, au-delà de tous ces termes, tout ce qu'il faudrait entendre par là, c'est que il ne faudrait pas que, en saisissant les biens du débiteur, qu'il soit démuni. Donc ça, c'est juste une énumération qui était valable dans le temps. Mais actuellement, la ratio legis, donc la raison d'être de la loi, c'est qu'il ne faudrait pas laisser le débiteur dans le dénuement total.
Voilà. Il y a une question d'un auditeur de Matadi par rapport au bien à saisir ou à ne pas saisir. C'est Planedi qui a posé la question. Il réagit comme suit. Si quelqu'un n'a que sa maison et que la justice veut saisir cette maison pour l'autre partie, que va-t-il faire? Pourquoi est-ce qu'on ne saisirait pas autre chose pour lui laisser la seule chose qu'il possède?
Bon, là c'est un autre cas, bien qu'il s'agisse de saisie, mais ça c'est la maison, c'est un bien immeuble. Quand nous parlons de la saisie conservatoire, c'est les mobilières. Il s'agit donc des meubles, donc des choses qu'on peut déplacer.
Voilà.
Là, c'est dans le cas de la maison. Il y a une autre procédure. Éventuellement, dans une semaine, quand vous m'appellerez, on pourra voir ce que la loi prévoit pour la saisie immobilière.
Et ça, c'est pour un mot là-dessus par rapport à notre auditeur.
De toutes les façons, pour saisir un immeuble, il faut nécessairement, comme nous le verrons, il faut toujours qu'il y ait l'autorisation du juge. Parce que c'est pour voir la servitude de la créance. Oui, parce que vous voyez déjà, quand on saisit un immeuble, c'est déjà très important. Il faudrait d'abord qu'il y ait la certitude de la créance. C'est cela que je peux lui dire.
Donc, on y arrivera. Mais lorsque, par exemple, une personne débitrice envoie certains des biens qui sont énumérés par la loi et dont les juges estiment qu'ils ne peuvent pas être saisis, notamment dans l'interprétation de cet article 127 du Code des procédures, c'est la procédure pénale.
C'est civil.
Procédure civile, pardon. C'est le livre 2 ? Non ?
Non, c'est le Code de procédure civile.
Oui. Très bien. Mais lorsqu'une personne voit ces biens-là saisis, c'est une question qu'on pose. On a entendu notre témoin tout à l'heure dire qu'il y avait le salon, les canapés qui avaient été saisis à la maison. Est-ce que ça, c'était légal ou pas ?
Oui, c'est légal, parce que d'abord, c'est par exclusion, ça ne se trouve pas dans l'énumération légale, donc ce qui veut dire qu'on peut le saisir.
Ah, d'accord.
Donc on peut saisir les canapés, effectivement, pour réaliser et payer la dette.
Mais dans la mesure où quelqu'un vient saisir un lit, on vient saisir des biens qui sont indispensables pour l'exercice d'une profession du débiteur, qu'est-ce que le débiteur peut faire ?
Donc vous devez d'abord, sur base de cet article, faire voir que, par une autre action, faire voir que ces biens ne peuvent pas être saisis. Ou, d'une autre manière générale, parce que dès qu'on saisit, vous courez dans la huitaine. Hein, donc le débiteur a aussi une action. Dans la huitaine de la saisie, il peut demander au juge qui a pris cette ordonnance de se retracter.
C'est-à-dire ?
Donc, de revenir sur la saisie qui a été opérée, sur l'autorisation plutôt qui a été donnée dans l'ordonnance. Donc, avec la rétractation, c'est aussi un moyen qui lui est donné de dire, par exemple, que non, cette saisie est illégale.
On m'a saisi mon lit. On m'a saisi mon micro, moi je suis journaliste.
Justement, oui. Justement. Donc, par cette action aussi, l'action en rétractation, dans les 8 jours.
Et dépasser les 8 jours ?
8 jours. Vous voyez, ce sont des délais. Si vous avez dépassé ce délai, ce sera difficile.
Est-ce que c'est la seule action en rétractation que le débiteur peut faire pour dire, écoutez, monsieur le juge, on a saisi des biens qui ne devraient pas l'être. Est-ce que vous pouvez repréciser, revenir sur votre ordonnance? Est-ce que c'est l'unique voie de recours à ce niveau-là?
Je crois, ça c'est une voie générale, mais je crois que s'il faut se référer à cet article, quand on dit par exemple que ne peuvent pas être saisis, je crois qu'il peut avoir une autre action pour dire que non, les biens qui sont saisis ne le sont pas de par la loi. Donc je crois qu'il y a possibilité d'avoir 2 actions à ce niveau-là.
Mais alors,
la première action de rétractation, c'est tout juste voir effectivement que, par exemple, que la dette n'est pas certaine. Ou qu'il n'existe pas de dette. Donc s'il prouve par exemple que il n'y a pas de dette, alors c'est par cette action de rétractation.
Disons que la dette est prouvée. Il y a eu vraiment dette et le débiteur reconnaît qu'il a la dette de X. Okay? Là c'est établi, mais le problème se pose seulement au niveau de l'exécution de la saisie. C'est là qu'il y a des abus.
Oh, bien sûr, il y a des abus. D'abord, ceux qui vont saisir eux-mêmes, peuvent se servir ou peuvent disparaître, faire disparaître les biens. Mais là, vous vous mettez dans une situation illégale. On peut vous poursuivre pour, selon le cas, vol ou détournement de biens saisis.
Mais lorsque nous observons qu'on recourt à des éléments de la police pour venir opérer des saisies d'abord, est-ce que c'est légal? Est-ce que la loi le prévoit comme ça?
D'abord, celui qui peut opérer la saisie, c'est l'huissier de justice. Mais dans la pratique, on voit que il y a souvent une certaine animosité qui apparaît justement lors de saisie, mais il peut s'accompagner de la force publique.
Oui.
Mais c'est au cas où il constate qu'il y a une résistance, il va appeler la force publique, c'est tout juste pour l'assister. Mais ceux-là ne peuvent pas commencer à entrer au domicile,
dans les pièces, à l'intérieur.
Non, c'est sous la responsabilité de l'huissier de justice.
Alors, nous avons, je crois, la chance d'avoir un huissier en justice en ligne. Monsieur Mbongo Bella, bonjour.
Bonjour, oui.
Alors, vous êtes huissier de justice.
Je suis huissier de justice, mais vous sortez mal, hein, vous sortez mal. Hein.
Ok, on va essayer d'arranger ça. Et oui. À votre niveau, essayez de ne pas trop bouger, restez stand-by. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Voilà, nous sommes en train de parler de la saisie conservatoire, notamment son exécution. On constate qu'il se pose souvent des abus dans l'opération même de saisie des biens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes huissier de justice, vous sous la responsabilité de qui s'opère cette saisie, comment se fait une saisie légale?
Bon, je suis en mesure de vous expliquer tout ce que vous demandez, mais le regret en est que vous sortez mal et vous n'êtes pas clair, je ne sais pas vous expliquer, je vous suis partiellement. Hein.
Mais dites-nous comment s'exécute une saisie légale, cher monsieur. Nous vous entendons parfaitement bien. La question est simple, vous êtes huissier de justice, vous supervisez les opérations de saisie légale, comment ça se passe?
Bon, ici, vous voulez savoir en ce qui concerne la saisie, hein?
Oui.
La saisie, parce que ici, nous avons deux sortes de saisie. Il y a la saisie conservatoire qui se passe au niveau du tripet. Il y a la saisie exécution. Alors, si vous voulez qu'on parle en ce qui concerne la saisie exécution, là, parce qu'on va parler de la vente publique et aux enchères.
Oui, c'est effectivement déjà au niveau de la saisie exécution. Comment ça se passe concrètement?
Bon, au niveau de la saisie exécution, ça se passe ainsi. Lorsque vous gagnez un procès, et puis on signifie le jugement à la partie succombante, ici c'est un jugement qui est rendu contradictoirement, signifie à la partie succombante, il a un délai de 30 jours pour faire appel. S'il ne fait pas appel, et à ce moment-là, vous allez à la cour d'appel après 30 jours pour obtenir le certificat de non-appel. Vous vous présentez au tribunal, au greffe d'exécution. Le greffe d'exécution va maintenant faire l'itératif commandement avec instruction de saisie. Ça, c'est pour 48 heures. Dépasser 48 heures, si la partie succombante n'arrive pas à honorer sa condamnation, à ce moment-là, on descend sur le terrain pour procéder à la saisie et exécution. Maintenant, on procède à une saisie forcée. Quand on saisit ce bien, après la saisie, le même jour, vous fixez les jours de la vente. Les jours de la vente, quand vous fixez les jours de la vente, ce jour-là doit être inscrit sur le PV, le procès verbal de saisie de bien. Et puis, la partie saisie doit être informé du jour de la vente. Quand vous ne récoltez pas, vous ne récoltez pas le bien saisi, vous pouvez lui constituer gardien. Bon, le jour de la vente, vous devez informer la partie saisie. Et cela pendant 15 jours. Avant que la vente ait lieu, vous procédez à la publicité au moyen des placards et au moyen des affichages devant la porte centrale du tribunal. Le jour où, si jamais les biens n'ont pas été récoltés, avant que la vente ait lieu, l'huissier doit, avec l'autorisation de l'agent de vente, procéder au récollement des biens 2 jours bien avant la vente publique aux enchères. Ceci pour permettre aux amateurs, adjudicataires, pour pouvoir vérifier les biens, voir l'état des biens et leurs intérêts. Mmh. Oui.
Mais alors oui. Oui, je vous laisse continuer.
Le jour de la vente, vous informez les amateurs, ils viennent et vous leur présentez tous les biens, tous les effets qui ont été saisis. Chacun, en ce qui les concerne, se prépare en conséquence. Mmh. Et puis, l'agent de vente, qui est un fonctionnaire de l'État, désigné par les notaires, procède maintenant à l'annonce de cette vente publique aux enchères devant les amateurs.
Oui, oui, je voudrais savoir, c'est une question d'un auditeur qui vient de nous appeler de Goma. Il s'appelle Victorien Oumandé. Il voudrait savoir que doit faire le débiteur au cas où les biens saisis ont une valeur supérieure à la dette contractée.
Si à la date fixée, la vente n'a pas eu lieu, l'agent de vente est obligé de reporter une autre date et puis signifier cette nouvelle date de vente à la partie saisie.
Ok, je pense que vous n'avez pas compris ma question, mais peut-être que celle-ci, vous allez l'entendre. C'est Jean-Louis Niembo, je pense, qui l'a posé de Lubumbashi. On observe lorsqu'il s'agit de la saisie conservatoire. Là, on revient à la saisie conservatoire, qu'il y a des abus qui se font quant au bien à être saisi. Il y a des gens qui saisissent des biens qui ne devraient pas l'être selon la loi. Puisque vous êtes huissier, lorsque des agents d'exécution saisissent des biens non prévus par la loi, que faites-vous?
Bon, il y a des biens insaisissables. Un huissier, lorsqu'il est sur le terrain, il sait que tels biens ne sont pas autorisés par la loi à saisir et ceux-ci sont autorisés. Prenons par exemple les lits, les livres, les bibles, les bouquets et consorts. Tous ces effets-là ne sont pas saisissables. L'huissier ne peut pas les saisir.
Mais on observe sur le terrain quand même qu'il y a beaucoup d'abus. On voit des policiers qui sont constitués gardiens des biens saisis.
Pour les gardiens?
Oui.
Le gardien dont on a constitué gardien des biens saisis, il doit veiller à les surveiller. Donc le jour de la vente, L'agent de vente doit venir récolter ses biens, alors il doit signer une décharge. S'il le veut bien, et si le gardien veut bien accompagner l'agent de vente les jours de la vente, il peut venir, mais dans ce cas-là, l'agent de vente ne va pas lui faire une décharge parce qu'il va assister à la vente. Mais si lui n'assiste pas, l'agent de vente doit lui remettre une décharge. Mmh. Et lorsqu'il y a, il y a perte de biens qui lui ont été saisis, l'agent de vente doit signaler directement sur le procès verbal de récollement. Tel objet n'est pas retrouvé ou détourné, il récupère les quarts des biens qu'il a trouvés, mais ceux qui ne se trouvent pas là, il va mentionner sur son PV de récollement.
Mais qui sera responsable des biens perdus?
Responsable des biens perdus, c'est le gardien, parce que le gardien est obligé, parce qu'il doit être payé. Il avait accepté volontairement, le jour où on a saisi le bien, on lui a constitué gardien, il a accepté ces fonctions-là. Et un des biens, lorsqu'il se perd, il est responsable. Dans ce cas-là, on doit le poursuivre pour détournement des biens saisis.
Voilà. Monsieur Mbongo Bella, je rappelle que vous êtes huissier de justice. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Ok, merci.
Merci. Je reviens à vous, Maître Kamba. Cette question de Victorion Mandé de Goma. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque les biens saisis ont une valeur supérieure à la dette contractée?
Bon, de toutes les façons, cela se verra justement lors de la vente. Mm. C'est à la vente, quand on a réalisé ce bien, on regardera par exemple que au lieu de 10 000 francs, plutôt dès qu'on a eu cette somme, par exemple la créance était de 10 000, mm-hmm. si on obtient par la vente les 10 000, on les donne et le surplus, on le remet au débiteur.
Aussi simple que ça.
Bon, je crois que...
On a évalué, ça se passe de cette façon.
Donc c'est oui, lors de la vente, tout se passe de cette manière-là.
Et merci, Maître Kamba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert, juriste, vous êtes avocat conseil, membre de l'association Avocats sans frontières. Vous êtes expert.
Je suis expert, c'est un peu trop dire. Je suis consultant.
Consultant pour un projet de boutique de droit,
effectivement.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu et à la prochaine occasion.
Ok.
L'OFIDA procédera le 12 février prochain à une vente publique au port de Matadi. C'est dans 5 jours, si vous voulez. Pour en savoir un peu plus, nous avons en ligne depuis le Bas-Congo notre confrère Stéphane Mokendi. Bonjour Stéphane.
Bonjour acteur.
Alors, la première question qu'on voudrait savoir, pourquoi cette vente et quels sont les types de marchandises qui sont concernées?
En fait, c'est une vente organisée par l'OFIDA Matadi. Elle concerne toutes les marchandises non déclarées stockées au port de Matadi, mais aussi les marchandises qui n'ont pas été dédouanées. Mm. Parmi ces marchandises, vous avez des véhicules, c'est-à-dire des voitures, des bus, des camions. Il y en a au moins une centaine. Mm-hmm. Vous avez aussi des équipements pour divers services. Vous avez aussi des appareils électroniques et électroménagers. Il y a aussi parmi ces marchandises qui seront mises en vente des conteneurs. Il y a des conteneurs contenant divers articles qui seront aussi mis en vente ce week-end.
Mais est-ce que vous avez réussi à connaître les modalités des ventes? Comment ça se passera?
Oui, on a contacté à ce sujet le directeur de l'OFIDA Matadi. Et selon lui, la loi douanière en application au Congo, toute marchandise importée a droit à un délai de 2 mois pour être déclarée et dédouanée au port de Matadi. Donc, dépasser ce délai, toute marchandise n'ayant pas été dédouanée est considérée comme abandonnée au port et donc fait d'office objet d'une vente publique.
Vous nous avez dit des biens qui sont restés dans les entrepôts de la douane pendant un délai de 2 mois. C'est le chef de l'OFIDA Matadi qui vous le dit. Est-ce que ce délai ne concerne que le port de Matadi ou c'est général pour tous les ports de la République démocratique du Congo?
Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est juste pour le port de Matadi. Parce que un peu plus à l'ouest, à Boma, au port de Boma, ce délai est de 6 mois. Et je pense qu'à l'est, au port de Kalundu, à Kalemi ou à Uvira, je pense qu'ils doivent avoir aussi leur délai. Ce délai, c'est juste pour le port de Matadi. Et il est de 2 mois. Donc, dépasser ce délai, toute marchandise qui n'a pas été déclarée est mise en vente.
Alors, dites-nous, lorsqu'il y a la vente, où est-ce qu'on met l'argent? Comment est réparti l'argent? Et on pense ici notamment aux propriétaires qui n'ont pas pu déclarer leurs biens pendant 2 mois dépassés.
Alors, selon toujours le directeur de l'OFIDA, l'argent de la vente publique va dans les comptes du Trésor public. Et il a confirmé en disant qu'il y avait un pourcentage pour les propriétaires des marchandises. Mais selon plusieurs témoignages recueillis auprès des propriétaires des marchandises au port même de Matadi, ils ne reçoivent rien du tout après la vente. Selon eux, le prix initial de la vente publique est tellement bas par rapport au prix d'achat et ne permet qu'au trésor public de récupérer son dû sur la marchandise importée. Donc rien n'est prévu pour les importateurs, donc c'est une perte pour eux.
Est-ce que vous pensez qu'ils ont l'impression qu'ils sont victimes d'un abus du pouvoir public?
Si, certainement. D'ailleurs, bon, plusieurs raisons poussent ces importateurs à abandonner leurs produits au port. Et la raison majeure, c'est qu'ils sont confrontés à une multitude de services au port. Et une fois devant ces services, ils sont dépassés. Vous avez l'OFIDA, l'OCC, la DGI, la DGRAD, l'FPI, l'OGFREM, tant de services qui vraiment débordent ces importateurs et ils sont obligés d'abandonner leurs produits au port. Et c'est aussi l'une des raisons qui pousse nos ports à être les plus chers.
Mais voilà, le problème est posé, le décor est planté, comme on peut le dire. Stéphane, merci pour toutes ces informations précieuses. Nous allons essayer de requérir davantage d'informations de la part des cadres de l'OFIDA pour qu'ils nous expliquent un peu plus en détail comment ça va se passer et surtout quelle est la part des clients, c'est-à-dire qui vont perdre leurs biens d'ici le 12 février. On saura un peu tout à l'heure. Peut-être une question pour finir. Stéphane, vous avez vu quelques-uns de ces biens. Est-ce que vous serez encore à Matadi pendant cette vente publique? Il y a des biens qui vous intéressent? C'est une question comme ça. Ah non, on l'a perdu. Ah, dommage. Dommage, on l'a perdu. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Nous allons requérir dans quelques instants les réponses, les explications des experts de l'OFIDA. Et en attendant, on me dit que ce serait probablement M. Mwepu Numbi, directeur provincial de l'OFIDA pour le Bas-Congo. Et évidemment, on devra avoir quelqu'un d'autre du service juridique de l'OFIDA. En tout cas, au port de Matadi, nous avons un premier intervenant, M. Mwepu Numbi.
Allô?
Allô, monsieur Mwepu Numbi?
Négatif, c'est monsieur Kikwa.
Ah, monsieur Kikwa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial de l'ONATRA. Il va être organisé une vente publique au port de Matadi le 12 février. Parmi les biens mis à la vente, il y en a de toutes catégories. Est-ce que vous pouvez nous répréciser les types de biens qui seront vendus?
Bon, les types de biens vendus, c'est, nous nous mettons à la disposition de l'OFIDA toute une liste de marchandises en conventionnel et en conteneur. En conventionnel, vous avez des véhicules, vous avez la sacherie, vous avez toutes sortes de biens qui viennent d'Europe. Mais les conteneurs sont là et les conventionnels sont là. Mmh. Conventionnel, c'est toute la catégorie de véhicules, de sacherie, les riz, farine, sucre, tout ce que vous voulez.
Mais parmi la catégorie de tous ces biens, c'est des biens qui avaient des propriétaires, c'est des opérateurs économiques qui les ont amenés jusqu'au port. Il se fait que lorsque vous vendez cela, il y a une très très large majorité qui ne rentre plus dans ce droit et ils disent qu'il y a une perte en ce qui les concerne.
Bon, je n'interviens pas ici, je n'engage pas mon entreprise Lonatra, j'interviens de par mon expérience pour essayer de faire comprendre aux importateurs, à notre peuple, les biens fondés de la vente publique pour Lonatra.
Oui.
Je voudrais d'abord expliciter que le port de Matadi, c'est un port de transit. Donc, quand vous venez avec votre marchandise, afin de permettre à d'autres Congolais d'importer, vous ne pouvez pas rester interminablement, éternellement dans le port. Donc il y a un délai. Nous donnons un délai de 4 jours pour évacuer la marchandise. 4 jours ouvrables, sans compter les samedis et les dimanches. À l'issue de 4 jours, si vous n'avez pas payé, vous avez le magasinage de Lonatra. Vous allez écrire à la direction générale de Lonatra pour essayer d'introduire un recours. Généralement, on allège ces frais-là, sinon on les enlève définitivement. Alors, à 100%. On peut donc vous réduire les frais de magasin à 100%, à 75% ou à 50%. Pour les cas rares, on peut rejeter cette demande, ces recours. Bon, si vous n'avez pas évacué dans un délai, je crois si ma mémoire est bonne, de 2 mois, donc cette marchandise est considérée comme abandonnée et envoyée à la vente publique pour permettre à d'autres Congolais qui importent d'avoir les espaces. Mais vous voyez, si vous restez avec l'argent de l'État, de l'OTC, de l'OFIDA, de l'ONATRA, 3 mois, 6 mois, et nous avons des frais, nous devons acheter les gasoils, les pièces de rechange, nous devons acheter et payer les agents, faire face à toutes les dépenses d'exploitation et les dépenses sociales. Donc nous ne pouvons pas, si vous avez importé, rester avec vous laisser avec l'argent de l'État éternellement. C'est ça le problème, c'est pour cela. Bon gré, mal gré, nous sommes obligés donc de procéder à la vente publique pour consacrer le caractère des ports de transit de Matadi.
Mais dites-nous, monsieur Kikwa, comment est réparti l'argent de la vente publique, après la vente publique?
Bon, c'est une question à poser à nos amis de l'OFIDA.
Tout à fait.
C'est la personne mieux placée. Mais pour nous, je vous ai dit, nous nous retrouvons vraiment presque pas. Ce qui compte pour nous, c'est de donner ces espaces à d'autres Congolais et surtout les trésors publics. L'OFIDA, qui est une entreprise qui a sa vocation, que vous connaissez bien, puisse retrouver, récupérer quelque chose pour le développement du pays. Donc, les taxes qu'on paye, c'est ça qui permet qu'on puisse payer les militaires, qu'on puisse payer les fonctionnaires de l'État, arranger les routes et faire toute la politique du gouvernement. Donc, c'est là que l'OFIDA doit essayer de récupérer quelque chose. Quant à nous, c'est pour essayer de servir notre client et récupérer nos espaces de stockage de marchandises.
Alors, je profite parce que je suis avec vous, de par votre expérience au niveau de Matadi, il y avait eu à un moment donné des craintes que ce port connaissait beaucoup de problèmes, notamment la vétusté, qui ne répondait plus à certaines normes internationales. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en train d'améliorer les conditions au niveau du port de Matadi?
Bon, je vous parle en tant que Congolais. La direction actuelle de l'ODATRA est constituée de gens qui viennent du port de Matadi, notamment l'ADT Mukumbu et notre ADG Mulambwe. Ce sont des connaisseurs, des techniciens, des ingénieurs qui connaissent mieux les problèmes du port. C'est notre avantage actuel et ils prennent ces problèmes à cœur. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une équipe d'experts qui sont en train de travailler pour essayer de pallier à la mise hors service, donc réfléchir comment nous allons résoudre les problèmes de la mise hors service des 4 quais. Je crois que c'est de ça que vous voulez parler. Parce que nous avons 4 10 quais, 4 ont été mis hors service. Nous travaillons avec 6 quais. Je crois que dans les prochains jours, je crois que vous allez On va essayer de trouver la solution. Je crois que les premières esquisses de solutions sont là. Il y a un quai qui connaissent Matadi, savent le quai Venise, qui pourra être, après les études de la RVM, ajouter un plus, donc un quai qui sera ouvert aux chalutiers. Il y a aussi notre vieux quai de Ango Ango, qui est vers Ango Ango, le port pétrolier. Et il pourra être ouvert aussi avec l'apport des importateurs qui pourront nous aider. Il y a le port de Boma qui pourra aussi nous aider avec 4 quais qui sont là-bas si la force n'a pouvait enlever les navires qui sont là de l'armée. Nous allons récupérer les 4 quais. Voilà les solutions que nous entendons faire pour ça. Et il y a aussi les bailleurs de fonds qui pourront nous aider. Nous étions avec une délégation de la Banque mondiale. Ils nous ont promis quelque chose pour essayer de relever les niveaux d'infrastructure du port de Matadi. Aussi la coopération avec le port d'Anvers sur laquelle nous comptons.
Voilà, M. Kikwa, merci énormément. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de l'ONATRAM et que vous interveniez en tant que quelqu'un qui travaille longtemps au port de Matadi. Merci pour les informations que vous nous avez fournies. Elles sont très, très précieuses. Bonne journée à Matadi.
Merci, je suis à Kinshasa toujours. Merci beaucoup, on pourra se revoir.
Avec les réseaux qui sont éparpillés partout au Congo. Merci beaucoup tout de même. Merci alors.
Ok, merci.
Ok.
Okapi, c'est vous.
Nous allons prendre pour quelques petites minutes maintenant le M. Mwepu Numbi, directeur provincial de l'OFIDA Bas-Congo. M. Mwepu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, moi c'est Walter Molondi. Vous êtes directeur provincial de l'OFIDA Bas-Congo. Nous allons, je vous pose la première question, c'est par rapport à cette vente publique qui est annoncée pour le 12 février prochain. On a entendu un peu la catégorie des biens qui sont concernés, mais la première question que je vous pose, c'est que certains importateurs se disent que ils vont perdre beaucoup de leurs biens. Il y a une perte, un manque à gagner pour eux lorsque cette vente publique sera organisée.
Bon, en fait, comme vous le savez, la loi prévoit que si les importateurs n'arrivent pas à enlever les marchandises dans le délai réglementaire, l'administration peut procéder à la vente publique. Donc, cette vente publique devrait en principe permettre à l'État congolais de pouvoir récupérer le droit ces marchandises qui sont considérées comme étant abandonnées. Donc la vente publique concerne les marchandises abandonnées par les importateurs. Et pour ce qui est, n'est-ce pas, cet abandon, comme je l'ai dit, on se réfère au délai réglementaire en ce qui concerne le port de Matadi. Le délai de 2 mois. Et pour le port de Boma, le délai de 6 mois. Bon, alors la loi aussi prévoit la répartition du produit de la vente publique.
Mais comment c'est réparti?
Oui, justement, parce que vous parlez des importateurs.
Oui.
Les importateurs ont droit à 21%.
Combien?
21%. Mm-hmm. Du produit de la vente. Bon, et les trésors publics à 58%.
Mais voilà, donc nous étions en train de parler de la repartition du produit de la vente publique. Vous nous avez dit que les importateurs ont 21% de cette vente-là et les trésors publics, le reste, c'est ce qu'on a bien compris.
Non, je disais que les importateurs ont droit à 21% du produit de la vente. Les trésors publics à 58%, et il y a le solde qui est réparti entre les intervenants, notamment l'ONATRA, le FREM.
Voilà. Mais alors, à ce niveau-là, lorsque nous regardons les proportions, il y a vraiment un réel manque à gagner pour les importateurs, monsieur le directeur.
Mais en fait, l'objet de la vente, ce n'est pas de pénaliser les opérateurs économiques. L'objet de la vente, c'est d'abord de faire en sorte que on puisse dire aux importateurs, ceux qui ont importé les marchandises, de pouvoir les déclarer quelque temps avant la vente. Donc il y a une action de publicité qui est menée, parce qu'il y a des fois où les importateurs ne sont pas informés de l'arrivée de leurs marchandises, grâce à la vente publique, parce qu'il y a une publicité qui est faite dans la presse, n'est-ce pas, c'est pour les informer, pour leur dire de venir récupérer leurs marchandises. Mmh. Et comme l'a dit aussi le sous-directeur commercial, n'est-ce pas, de l'ONACRA, la vente publique aussi a pour objet de désengorger le port. Mmh. Le port de Matadi, c'est un port qui est exigu, et donc on ne peut pas permettre que les marchandises séjournent de manière éternelle. C'est ainsi que le législateur a prévu un délai. Mmh. Donc, les importateurs, quand ils importent, ils savent, n'est-ce pas, qu'ils ont des délais à respecter. Et en principe, ils devaient s'organiser dans le délai pour pouvoir sortir les marchandises.
Oui, mais monsieur le directeur provincial de l'OFIDA Bas-Congo, vous dites qu'il doit être fait état de la publicité avant la vente publique. Est-ce que vous avez déjà fait cette publicité-là et par quel canal de communication?
Mais justement, il y a un communiqué qui a été signé par M. l'administrateur délégué général de l'OFIDA. Ce communiqué est passé dans la presse au niveau de Kinshasa, hein, notamment les journaux. Et ici sur place, au niveau de Matadi, le communiqué a été affiché, conformément, n'est-ce pas, aux dispositions à la matière, affiché à la direction provinciale. Et nous avons contacté aussi la presse locale ici à Matadi, notamment la presse audiovisuelle, donc la télévision. Et donc, la publicité s'est faite et dans les journaux, et à la radio, et à la télévision. Et nous pensons aussi que ce qui est en train de se faire maintenant avec Radio Okapi, c'est aussi une forme de publicité.
Mmh. Mais alors, est-ce que avant le 12 février, des opérateurs économiques peuvent venir sauver leurs biens de cette vente?
Justement. Donc, la publicité se fait pendant plus ou moins 15 jours, mmh. et jusque 48 heures avant la vente, les importateurs ont le droit de retirer leurs marchandises. Mmh. Et je peux vous rassurer que dans la plupart des cas, après la publicité qui est faite avant la vente publique, on se retrouve avec beaucoup de biens qui sont dédouanés mmh. avant la vente, et c'est quelques véhicules, quelques conteneurs qui restent qu'on vend en fait de compte.
Mmh. Donc on peut dire, sans risque d'être trompé, que les importateurs qui nous attendent maintenant ont jusqu'au 10 février pour aller dédouaner leurs marchandises, pour sauver les marchandises de la vente publique qui est annoncée pour le 12 février.
À ce qui concerne Matadi.
À ce qui concerne Matadi.
Notre vente qui est prévue à Boma, je crois, le 19. Mmh. Donc là, ils ont jusqu'au 17 pour pouvoir sortir leurs marchandises.
En tout cas, M. Mwepounombi, merci beaucoup. N'hésitez jamais à faire parvenir à Radio Okapi, surtout particulièrement au magazine Okapi Action, ces genres d'informations, parce que notre mission, c'est rendre service par l'information et les sujets que nous exploitons. Je vous communique notre adresse email, c'est action@radiookapi.net, et à ce moment-là, on pourra faire état de certains des communiqués services publics comme ceux-là pour essayer d'aider les opérateurs économique et ceux qui n'auront pas suivi peut-être les formations par d'autres voies officielles. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Okapi dans ce sens-là?
Mais comme vous le savez, l'OFIDA est actuellement dans un programme de réforme et de modernisation. Et l'un de cette réforme est justement le renforcement du partenariat. Partenariat avec les opérateurs économiques, mais aussi partenariat avec la presse. Mmh. Donc la douane n'hésite pas et ne peut pas hésiter à saisir une opportunité comme celle-là.
Mmh. Mais il y a une question d'un auditeur de Kinshasa, et elle est assez pertinente cette question. Godet pense que la vente publique à Matadi ressemble à un marché en différé. Godet pense qu'on a toujours l'impression que les agents de l'OFIDA concluent à l'avance des marchés avec leurs clients, et les autres n'ont pas facilement accès à ces biens. Ils ont déjà leurs clients à qui ils vendent des biens. Une réaction?
Non, mais je crois que c'est absolument faux, parce que, comme vous le savez, la vente publique est organisée non seulement par l'OFIDA, mais il y a aussi la justice qui est représentée par le parquet. Donc le parquet est là pour constater si, n'est-ce pas, la vente publique se fait conformément à la loi. Et non seulement il y a le parquet, à chaque vente ici à Matadi, il y a les services de sécurité, les services de renseignement qui viennent pour suivre l'évolution, n'est-ce pas, de la vente publique. Mmh. Donc, non seulement cela, je crois que depuis 2 ans maintenant que nous organisons ces ventes publiques, depuis que nous sommes ici à Matadi, nous faisons en sorte que toutes les opérations se fassent dans la transparence la plus totale. Et nous associons donc la presse qui assiste à la réalisation de la vente publique. Mm-hmm. Pour que tout se passe dans la transparence la plus totale.
Voilà. Moi, pour Numbi, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes le directeur provincial de l'Office des douanes et accises OFIDA, province du Bas-Congo. Merci d'avoir été disponible pour répondre à nos questions. Je vous souhaite de passer une excellente journée de travail.
À moi de vous remercier.
Merci beaucoup. Okapi Action, les élections, c'est facile à comprendre. On dit toujours, en République démocratique du Congo, nous allons passer les premières élections libres, transparentes et démocratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout de suite.
Les élections, c'est facile à comprendre. Avec Thérèse Kankou et Franck-La Moliba Cissé.
Masongola tu di bende la tu baso masongola abantu basongola baje kache kabebi abantu benze jeni ele kakanda keba nu vote ver mchikondu cha mukalera mobutu yire na vote ver kakwe kandida mkwa debiti basi tuka yi kandida na sheli na ayi kandida ita na shiboba kandida jiko tetunga yetu population peple tu songola kandida utu jibanyi shi utu jibananga ulimo kulombra jitu ngeji mujitalala mubuhola mubwakana.
Tulibasa masongole ba mkongo wetu. Jisongole dipita bimba kaji kukawe mchimvundu. Batu kabake nga bata tabikole ni mvita. Tutulo mbaba balombo jiba jikumpala. Kapitisha jisongole dipita mulutulu kakuka jisimvundu.
Masongole tibana wana zima tumia mkongo reke nga lebo atetu bonzo. Populasyo yonso kongo yonso. Enze masongole angani. Kati ya banangu wana samba kampani. Inti enze masongole angani. Vire jo kampani kima enze masongole angani. Kibu yi jingwe chindika na njodi ya.
Tetri basa wani masongole angani ikala nu. Transparence libre wa muntu yonso vote muntu li baso kushwa wa kwa ditu nga liyano kong kumpal katiri mokuchal batu konso ni muli kutukutu ani muli fikidite anwe sheka bank kiba iba progresia kumpal ato tujengi ni mahali kana akumbal
angu tetu tulu amba wani mbura matari kabloke wani katiku masungula angana to enza na mshindi yonso wani le 30 juwe fiyako masungula na tusungula muntu yonso ili muntu muso kumoyi kwa enda.
Et au moins, tu espères dans la fina. Tu dis bon, voilà, ni ventre, bon, se bâtir, qu'à la bâchina, ni masoumoula, à dialoua, y kala, à boudika, didi, an boudisuila, à moun, à la tamoulela, ni mikala, patoka. Donc, tu as coulé le loupami à quoi imine naïsatu, et j'ai vu qu'à la babikila, mon français, ni élection libre, démocratique et transparente.
Moi, ni tu basil bakumbane. Tu t'as dit, j'ai pas convoué, j'ai mis à quoi. Tu dis tout toi jeune libre bubudi kadi di ani budi suil
bim kadi di kanela to haju kuleja se masungula ambu di suil ani budi kadi di ajimika la mu bitu pa bibiti kujiti tu pa chabasungudi ni chabaji bubika la basungula
bo basungudi masungula adi abu di suil pa di buba sungula ba di buba su ka bayi babenzisha ku makanda nash
mbona kwamba ni kabena mahukwenzisha ku makanda bo we okuleja patoka muntu uji musungula. Ami kukwenzeja kwa usungula muntu kampanda uji bobi kalabaswa nashi.
Bwabadibela mpala, masungula adi amubu diswila, padibumu wakuya kwenza ama diswisha abu, mumiaba yonsu kwa kujidipu umbisha nashi.
Eyo, kujiswisha ani kampanyi, mpajibisu umbu bia chijiji, biende bimanisha ni biswisha abimeji ankuachiru wa mujimu ani proje de societe. Tumani proje de societe mwina, mukande wa meji achisumbu, ajaleja wachimushindu wakulongola nsombele wa bantu mumi soko mumatunga tuamba nasi mujitunga jishimu.
Bushuwa, padibedi bampa lakaba iba peta janisha di akwenda miyaba yonsu wakudiswisha masungula kaena abu diswile nebudika didito.
Tuakula mpinje obwa masungula apatoke. Fajiba bikila nunku, fajibantu babuni bashirangana, bikala bakwate mujimu pamwa wakulongolola mina masungula. Jirongololeji, jijiri mubitu pabisatu, kuhichitu pachaba jibela mpala bajini pabantu, chaba sungu jimena ne chabunga na bwamatunga.
Muchitu pachaba jiba filampala, batu mibwa babu wadine buwa kuikala kudilongolola edi. Muchaba sungu di, bajojiba masungula mbena ditunga, anyibaka mwona kamba badiba leja mpala wabena ditunga mubitu pabionsbya dilongolola masungula. Muchitu pachabunga na bwalibisumbu, bajoji mba matunga meni.
Nanku tuwa manipadi masungula, mikala abuji suile ni buji kajiji ni apatoka, tujimwa kwamba ni aji amunga lata ani demokratiki mujiba amba mwakulu wa franse.
Bulele labwalu ba masungula amunga lata, nga adi anemeka mikenji ya bukalenga ba munga lata. Apu munga lata, udimu ikale budi kajiji ni dinemeka manema abonsu.
Muchikondo cha republiki mwibiji wa shajewu, kuva kwenze kama sungula misangu isatu mchijimu cha chino nuka machitema nima kumwanda mteketa mchijimu cha chino nuka machitema nima kumwanda mteketa nima kumwanda mteketa kabijini mchijimu cha chino nuka machitema nima kumwanda mkulu ni nai kajiri muma sungula onsoemu mvumu ikalamu pala umwa wa mkale ya mobutu nkayenda ujumuma nyubwalwebu
mobutu uvamudi swisha yone kubia palu kama makumi chitema ni chitema mchijimu cha chino nuka machitema nima kumwanda mkulu ni nai Masungula kavo amubu diswile ani amunga lata nasha apa toketo. Tuasa kidila mwane tubazili bakumbano.
Tuasa kidila hii, bivuwa bianza nungu kujibeno waba, este anda fina ni bazili bakumbano.
Okapi!
C'est facile à comprendre, les élections, c'est qui le jour dans Okapi Action. Merci à nos confrères, à nos consoeurs d'Alafina et Basile Bakumbane qui nous ont offert la version Chiluba, élections libres, transparentes et démocratiques. Question de comprendre, vos réactions nous intéressent, envoyez-les à action@radiookapi.net et vendredi nous aurons la version française avec des invités, avec vos questions, ils y répondront. Dans la province du Maniema, dans la cité minière de Kailo, c'est une ancienne concession de la Sominki, la société minière du Kivu. Là-bas, on s'adonne beaucoup à l'exploitation artisanale de la cassitérite. Cette exploitation se réalise assez bien parce que on fait des productions jusqu'à 70 tonnes par mois. Malheureusement, on constate qu'il y a des accidents dont se suivent mort d'hommes dans les chantiers souterrains. Parmi les conséquences, on note aussi, ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Kindu notre confrère Sadala Chabani. Sadala, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, dites-nous qui sont les exploitants artisanaux de Kailo et comment exploitent-ils la cassitérite?
Oui Walter, à Kailo, cité minière située à 72 km à l'est de Kindu, d'importants gisements de ces minéraux d'étain ont été abandonnés par la société Sominki lors de sa liquidation en 1997. À ces jours, pour survivre, des familles entières s'en donnent à cette exploitation artisanale, comme le précise M. Marcus Kunda Mungunda. Il est le président d'un comité de creuseurs artisanaux organisé sur place à Kailo.
Hapa ndani ya Kailo kabisa kufatana na nomaklatile sababu tuko na maliste nominative ndani ya komite kukamata kaa tatu Kailo, Lonyoma, Mestera, Sisi, wote tulikuwa tunenea 960 persone, krezere, banye bako batu balazima, batu bakubo me kufatana leo inakuwa kazi na banabake na batoto banatia batu wabaezi kuwa chini ya 1200 benye kufanya tuile kazi ya kasteri
Sadala, un petit résumé en français de ce que M. Marcus Kunda Mungunda vient de dire.
Oui, M. Marquis a précisé qu'il y a des adultes qui vont chaque jour faire l'exploitation dans des chantiers et il a enregistré, lui étant membre du comité, plus de 900 personnes adultes qui creusent. Mais il ne s'est pas fixé le nombre exact puisqu'il y a des familles entières, pères, enfants, et qui vont chaque jour à la recherche de Sylvie et qui fouillent par-ci par-là pour creuser, chercher ces minéraux d'étain.
Mais dites-nous, à vous qui vivez au Maniema Sadala, est-ce que ces jugements contiennent encore des minéraux?
Oui Walter, ces exploitants artisanaux fouillent et creusent dans des chantiers abandonnés et même souterrains. Ils réalisent par mois plus de 70 tonnes de la cassitérite et environ 50 tonnes de wolframite. Confirmation des membres du comité de creuseurs artisanaux, Jean-Marie Djamba.
Fatana na inye tuku tulafanya statistiki ya komite, mea tukua kichini ya 70 ton. Bea ya kasterite hapo kwa siku hizi inakuwa 600 fra, banashukiza sana ten. Sawa vile dorale moja na kipande mbili. Kufatana na vile tulikuwa tunatumika wakati ya kipwa, krezani alikuwa napata kasterite ya kutosha kufatana na mafilo ziko mbalimbali. Kuna mafilo yenye inalipa, kilo 15 kwa siku, kuku yenye inalipa 100 kwa siku, mea kufatana na masika inafunika mashimu, batu wapate tena vile na stahiri. Batu wako napata kilo 10, kilo 5, maji inasonga ya ndani ya li.
Sadala, que diriez-vous à ceux qui n'ont pas compris le Swahili?
Oui, Jean-Marie Djamba confirme que les statistiques que relèvent dans leur comité de creuseurs artisanaux ont pas de plus de 70 tonnes de la cassitérite par mois. Et un creuseur à période de sécheresse, donc pendant la saison sèche, peut obtenir par jour plus de 100 kilos. Mais maintenant, avec la pluie et consorts, il y a le creuseur qui rentre par jour avec 10 kilos et sur place. un kilo de la cassiterite, selon lui, se voit $1.2.
Donc voilà, si vous pouvez nous préciser sur la quantité de production par mois, par exemple, la vente de kilo, vous venez de nous dire, à $1.2 le kilo, et c'est quelle quantité qu'ils peuvent produire par mois?
Oui, comme vous venez de le dire tout de suite, M. Jean-Marie Gamba, un kilo de ces produits miniers se vend sur place à Kailo à $1.2 américains. Un peu de calcul, Walter, ça nous démontre que, comme il a parlé de 70 tonnes de cassiterite chaque mois, qui représentent 70 000 kilos, et si nous faisons la petite multiplication, nous voyons que dans cette cité minière, l'exploitation artisanale draine plus de $70 000 par mois. Alors la cité n'est habitée que par 13 000 personnes. Et pour savoir quel est l'impact de tout cet argent dans une petite cité comme celle-là, voilà ici la réponse de Jean-Marie Jamba.
Faida ya kuchimba hii madini tunaona hapa kwetu kama manyumba yenyewe ilikuwa inaanguka, vijana wa mjini wanaanza kujenga, wanarudisha, wanafungua mafarmasi, mabutike venye Mungu anawasaidia, wananunua mitugari ya miguu mbili, sawa vile pikipiki, kinga, venye wananunua mavideo, kwa venye wananunua mashine ya kushona, ndio tunaona faida. Na buchulizi kidogo kidogo inarudia kumjini, ba mama alikuwa buchi wakati ya mavita, tunaona watu wananza vala manguo, mapantalo, watu wananza kupata kanguo kakufana. Kwa ngambo ya chakula tunaona chakula inakuwa very kali, sawa watu wanaona kulima mashamba iko retari, ili ya chimbe kasterite apate kitu ya leo leo. Sepurukua munaona chakula inakuwa natoka Bunga, mafute natoka Kindu na kia kujishiwa hapa.
Voilà, je peux me permettre de noter pour nos auditeurs, de leur dire que comme impact de l'engouement vers l'exploitation de la cassiterite, M. Jean-Marie Jamba nous dit que cela a permis quand même de reconstruire un peu Kailo. Il y a de nouveaux investissements, de jeunes gens qui peuvent s'acheter des motos, le commerce fleurit. Malheureusement, il y a une hausse des prix des denrées alimentaires parce que la production agricole est faible, les gens préférant aller dans les zones minières de la cassiterite. Sadala, est-ce qu'on est d'accord sur ce résumé de ce que Jamba a dit?
Oui, vraiment, c'est précisément ça. Mais il a aussi ajouté que maintenant, les produits vivriers, donc agricoles, ne se trouvent plus. Le cultivateur ne font plus au champ, ils préfèrent aller creuser puisque ça rapporte immédiatement au lieu d'attendre 2-3 mois. Pendant la période de récolte des champs.
Nous savons que dans les carrières d'exploitation minière artisanale, il y a beaucoup d'accidents qui se posent. On se souvient d'un incident dans le Kassai, notamment après Chikapa et tout. Est-ce qu'à Kailo, on a enregistré un incident du genre?
Oui, Walter. Des désirs ardents d'argent poussent au mépris de tout risque certaines personnes à foncer plus loin dans des mines souterraines. On déplore déjà la semaine passée 7 morts, comme le précise encore cet exploitant artisanal de la cassiterite sur place à Kailo.
Watu walikufa mbele walikuwa wanaingia kufuatana na ile mabovu wazungu walikuwa wanashuka ndani ni kule kwenye minerali kopile hakuna majiwe. Sasa vile vitu wazungu walikuwa wanatia juu ya kingo ilikuwa ishakuwa na uregezo ya mamvula na miaka ilishapita wakati wazungu walitoka. Watu hawakuwa najua vile vitu vya kuzivia vikavunjika vikafunika watu. Kukafa wanaume wawili, kukabakia mablese tatu. Kurudilia pale ule mama naye anakia kufa na mtoto ndio tuliona kama maingilio ya mabovu. Hatujua andirase yao tunaiacha. Ndio tuko tunaenda tunatumika mashantia ya inji.
Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il nous a dit notre ami?
Oui, notre ami dit qu'il y a, c'est par désir d'avoir beaucoup plus de quantités de la cassiterite, ils foncent très loin dans des mines souterraines, tout en ne sachant pas le support, la résistance de ces tunnels. Et pour plusieurs fois, il y a qui sont entrés sous place, puisqu'il y a des terres qui tombent sur eux et ne savent plus revenir. Mais voyant tous ces dangers, le comité a statué et a demandé aux creuseurs de faire l'exploitation à ciel ouvert et de ne jamais aller très loin dans des mines souterraines. C'est ce que venait de dire M. Jamba.
S'adresse à Chabani, est-ce qu'on a noté d'autres conséquences dans la vie normale autour de Kailo par rapport à l'engouement grandissant vers l'exploitation artisanale de la cassiterite?
Oui, justement, ce sont les responsables d'école de Kailo qui déplorent une déperdition scolaire due à l'abandon de plus de 30% d'élèves pour l'exploitation artisanale de la cassiterite. Les précisions d'un parent qui est sur place à Kailo.
watoto wanakuwa wengi sana, kuko wa mwaka sita, wa mwaka saba, wa mwaka mnane, na kuko wazazi wenye wanaribisha watoto, wanaenda kusentea, wanawewa watoto, kuna kuwa maksida ya majua kualumiza. Kuna jamaa mzima yenye hii kunaenda tumika kasterite ila bila mtoto kuenda kukalachi, ugye kufanya kazi nyingine, baba, mama na watoto.
On a noté que des familles entières sacrifient la scolarité ou l'enfance des enfants, des plus jeunes, pour les amener avec eux dans les zones minières de Kailo. Est-ce que face à ce phénomène, lorsque vous nous l'avez dit, 30% d'abandon des élèves, c'est quand même assez énorme. Est-ce qu'au niveau de l'administration publique, il n'y a pas des mesures qui sont prises par rapport au phénomène?
Oui, Walter, dernièrement, l'administrateur des territoires de Kailo a décidé l'interdiction de voir les enfants dans les chantiers des mines. Et cette décision s'applique timidement, mais il a dit qu'il va resserrer les taux jusqu'à ne plus avoir un enfant dans les chantiers.
Nous aurons tout à l'heure comme invité pour commenter ce sujet, M. Omari Ombadelo, chef de division des mines au Maniema. Pour l'instant, Sadala Chabani, on vous remercie beaucoup pour nous avoir amené des nouvelles des tunnels des zones minières de Kailo au Maniema. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci Walter.
Imaginez des enfants de 10 ans qui n'ont plus dans leur dos des sacs dans lesquels il y a des cartables pour aller à l'école. Imaginez une fillette qui, au lieu d'aller à l'école, porte de l'eau à son père ou à sa mère. Loin du village, ils sont dans la brousse, dans les carrières minières. Imaginez un enfant qui devrait être à l'école, qui est en train de tamiser des flaques d'eau ou du sable à la recherche de la cassitérite. Imaginez tous ces milliers d'enfants qui ne peuvent plus être scolarisés parce qu'on voudrait avoir un peu beaucoup plus d'argent dans la vie. Ce n'est pas une fable que je vous raconte, ce n'est pas une drôle d'histoire que je raconte, c'est une réalité. Et ça se passe dans les zones minières, en République démocratique du Congo, principalement à Kailo aujourd'hui, les cas que nous évoquons. Kailo, on exploite de la cassitérite et bien d'autres minéraux. Pour commenter ce constat, nous avons en ligne depuis Kindu, M. Omari Ombandelo. Bonjour.
Bonjour, M. Alter.
Vous êtes chef de division des mines pour la province du Maniema. Voilà, on constate d'abord que, commençons par les enfants, qui sont de moins en moins nombreux à l'école, mais qui sont très nombreux dans les zones minières. On a appris que l'administrateur de ce territoire avait pris la décision d'interdire la présence des enfants dans les chantiers miniers, mais la mesure n'a pas fait d'effet. Que comptez-vous faire?
Oui, Alter, je crois que la situation là est conséquente à ce que vous connaissez en République démocratique du Congo, et plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, chez nous à Kindu. Kailo ayant été le bastion de combattants résistants de Maïmaï pendant plus de 22 ans, et où plus de 20 affrontements ont eu lieu, ne peut se soustraire de ces méfaits néfastes qui découlent de ce genre de pratiques. Et je crois que la mission de l'administrateur de territoire ne fait que rejoindre les préoccupations du ministère des Mines à travers le nouveau code minier ainsi que ses mesures d'application, parce que là, il faut qu'on remplisse les conditions pour devenir un exploitant artisanal conformément à la loi.
Quelles sont les conditions?
Les conditions sont là. Il faut d'abord, pour être éligible, il faut avoir au moins 18 ans. Au moins 18 ans, il faut adresser sa demande de écrite, bien sûr, et il faut présenter deux photos récentes format passeport, il faut payer la redevance annuelle, et il faut respecter scrupuleusement le code de conduite de l'exploitant artisanal. Toutes ces conditions sont vraiment à tenir avec rigueur vis-à-vis de ces enfants pour combattre cette mauvaise pratique.
Mais Monsieur Omari Ombandelo, il y a un problème, c'est que malgré ces dispositions-là, il y a beaucoup d'enfants dans les carrières minières.
Oui, c'est normal parce que je vous disais tout à l'heure que Kailo était bastion de combattants résistants Maïmaï. Et il n'y a que 6 mois depuis que nous avons connu l'ouverture de cet axe-là. Et c'est maintenant que nous commençons. Vous savez qu'il n'y a pas plus de 2 semaines que les experts du ministère des Mines ont été à Kindu pour mener la campagne de vulgarisation du nouveau code minier. Et maintenant, c'est à notre tour de vulgariser cette campagne à l'intérieur de la province, notamment à Kailo. Et j'ai déjà envoyé une équipe moi-même, peut-être d'ici là, je peux faire une mission pour aller insister sur cette campagne.
Mmh. Alors, ils font de l'exploitation minière, ces exploitants artisanaux rentrent dans les tunnels assez vieux, ou dans lesquels les supports ne sont plus assez solides. Et on a déploré, par exemple, on déplore des morts. Comment faites-vous pour éloigner les exploitants artisanaux des sites à risque?
Oui, Walter, je crois que la situation n'était pas encore très bien contrôlée. D'abord, vous savez que ce sont des anciennes concessions minières de la défunte Sominki. Et à l'intérieur des concessions qui sont couvertes par un titre exclusif, un droit exclusif minier, nous, on ne peut pas aller faire la police. C'est la société qui devait faire normalement la police. Non, maintenant que la société est morte, si vous me permettez le terme, je crois que nous allons ouvrir le chemin pour aller commencer à mettre de l'ordre en partant des principes et des instructions venues du nouveau code minier.
Mmh. On a toujours entendu que la province du Maniema, c'est une province enclavée qui a soufflé le chaud et le froid pendant les durs moments de la guerre, ce qui n'est pas faux. Mais bon, un rapide calcul permet de comprendre que de Kailo, par exemple, l'exploitation artisanale de la cassiterite peut drainer jusqu'à 70 000 $ par mois. Est-ce que vous avez noté un impact positif par rapport au développement de la province?
Bon, il y a eu vraiment beaucoup de coupures, je ne vous ai pas bien capté. Est-ce que vous pouvez me répéter la question?
Mais il a dit qu'on note quand même qu'on peut avoir jusqu'à 70 000 $ par mois de l'exploitation artisanale de la cassiterite à Kailo, par rapport à ce qu'on dit souvent que le Maniema c'est une province très sinistrée. Mais est-ce qu'avec quand même ce gain qui sort, est-ce que vous avez noté un début de développement et de la province?
Oui, Walter, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La province du Maniema regorge des potentiels de vie, notamment en agriculture et en mine. Et la province vit à 80% des produits miniers. Et j'estime que la question aujourd'hui, c'est de savoir comment canaliser les efforts pour un contrôle et ce contrôle puisse nous conduire à amener le produit vers le circuit officiel afin que la province et le pays rentrent dans ses droits.
Ok, d'accord, donc on suivra d'ici là que vous aurez mis de l'ordre, sans oublier que les exploitants ont droit aussi à la vie, non? Ils doivent rentrer aussi dans leurs droits, monsieur le chef de division.
Oui, tout à fait. Vous savez que si nous avons tenu jusqu'à présent, Walter, je ne vous cache pas, le Maniema vivait entièrement des produits miniers grâce à ce genre de transactions entre les comptoirs et les creuseurs.
Très bien, à suivre donc. Je rappelle M. Omari Ombadelou que vous êtes chef de division des mines au Maniema. À très prochainement pour faire le point sur l'évolution de l'exploitation minière artisanale au Maniema. Bonne journée à Kindou.
À vous aussi, merci Walter.
Merci. Au Capi Action, nous continuons un dernier virage de notre magazine. La méningite tue, les plus grandes victimes sont les enfants et les nourrissons. Maladie endémique, elle est mal connue lorsqu'elle frappe la méningite. Est mal gérée, difficilement gérée d'ailleurs, au niveau des familles, parce que les symptômes sont difficilement décelables. Mais qu'est-ce que c'est la méningite? C'est d'abord, si vous voulez, une inflammation des méninges qui sont des membranes qu'on retrouve au niveau du cerveau. Comment attrape-t-on la méningite? Comment la soigne-t-on? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Mais d'abord, est-ce que les gens connaissent la méningite?
J'entends parler de méningite, mais je ne sais pas ce que c'est.
Je sais que c'est une maladie.
Vous savez comment ça s'attrape?
Non, malheureusement.
Je sais que c'est une maladie qui frappe, je pense, le cerveau ou la tête en général. Mais en tout cas, je n'en sais pas plus parce que j'ai jamais eu quelqu'un de la famille qui a souffert de ça.
Mais il est de côté, maman.
Oui, bien, on te dit, on peut.
Non, là, non, combo.
Et ça, là, on est.
Donc, à la fin, il y a un babelli. Il y a un malade qui a cassé, 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 il y a un méningite. Comment est-ce que tu as dit?
J'entends parler de la méningite. Il paraît que c'est une maladie qui frappe dur.
qui fait souffrir beaucoup de gens. Mais c'est une maladie aussi qui est infectieuse. Ça dure trop longtemps, mais je ne comprends pas comment ça peut atteindre tout le monde. Mais il paraîtrait en plus que c'est un virus qui fait peut-être que tout le monde peut être infectieux. Voilà.
La méningite correspond à une infection de ces enveloppes. Ces infections sont causées par plusieurs types de virus, des bactéries et de champignons. Les méningocoques se transmettent par contact étroit, direct et prolongé avec les sécrétions nasopharyngées. La méningite à méningocoque associe un syndrome infectieux et un syndrome méningé. Le syndrome infectieux se caractérise par des fièvres, des maux de tête violents, des vomissements. Le syndrome méningé se caractérise par une raideur de la nuque, la léthargie, des troubles de la conscience, voire le coma. Chez le nouveau-né et le nourrisson, ces symptômes sont moins marqués. L'accès brutal des fièvres, parfois accompagné de convulsions ou vomissements. Il existe une forme de méningite causée par le microbe H-influenza ou S-pneumonien qui attaque les personnes âgées. Il cause des infections méningées et septicémiques. Un traitement aux antibiotiques est appliqué le plus rapidement possible. Le traitement s'effectue par voie intraveineuse et est poursuivi habituellement pendant 10 jours. Longtemps, on a utilisé la pénicilline G, mais des souches de sensibilité diminuées vis-à-vis de cet antibiotique s'étant développées, on traite désormais par les céphalosporines de troisième génération. Par contre, en Afrique et en Asie du Sud-Ouest, pour des questions de coûts et de modalités d'administration, le chloramphénicol est l'antibiotique utilisé en routine sous forme injectable. Mais on craint aujourd'hui le développement des souches résistantes à cet antibiotique, ce qui serait dramatique pour la lutte contre les épidémies qui surviennent dans la ceinture de la méningite.
Et voilà Nathalie Moutéba qui nous a fait le point sur la méningite. Vous vous êtes rendu compte que très peu des gens connaissent ce que c'est, parce que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est une maladie qui est assez dangereuse, mais malheureusement très très peu connue. Nous aurons la chance d'avoir des experts sur la question. Il s'agira pour nous d'avoir les bonnes explications, les bonnes manières d'éviter cette maladie, de la soigner, comment réagir lorsque un proche est frappé d'une crise de méningite. On saura dans quelques instants. Déjà, vos questions nous intéressent. C'est le 081 890 68 90. C'est par là qu'il faut nous appeler.
Okapi, Okapi, fréquence de la paix.
Et voilà, nous continuons à parler donc de cette méningite. Et ce qui se passe, c'est que nous devrions voir en ligne, Sylvain, est-ce que nous avons notre expert en ligne? Non, ça va venir dans quelques instants. On devra avoir docteur Janine du centre hospitalier de Mokali, avec qui nous parlerons du sujet. En attendant, c'est des réactions des auditeurs qui arrivent par rapport notamment à cette histoire de la présence des enfants dans les carrières minières. Pierrot Kamoy qui nous apprend que dans les Katanga, ils connaissent la même chose. Pierrot Kamoy considère que c'est là une fuite de responsabilité de l'État qui regarde impuissant les enfants abandonner l'école. Alors, il voudrait savoir quelles sont les précautions que les exploitants prennent vis-à-vis de l'État. Si j'étais exploitant, je vous aurais répondu avec beaucoup de plaisir, cher monsieur Pierrot Kamoy. Juste le temps pour nous de contacter un exploitant et nous vous transmettrons la réponse. Autre sujet qui intéresse les auditeurs, c'est la vente publique des biens non dédouanés ou des biens qui ont traîné plus de 2 mois au port de Matadi notamment. Nous vous l'avons dit, ce sera le 12 février et que cette vente publique va être organisé des réactions des auditeurs, parmi lesquelles celle-ci que je vous propose d'écouter.
Je interviens à ce qui se passe au de Matadi. Vous savez, il y a un marché public là, l'on a travaillé des trucs qui sont là-bas, qu'on n'a pas dédouané, mais il se passe des trucs que quand vous arrivez là-bas pour acheter, il y a les gens de l'OFIDA, de l'ONATRA, de la justice ont déjà leurs clients. Donc j'ai l'impression comme le marché est déjà indifféré. Ils se sont entendus avec leurs clients déjà. Et puis quand vous arrivez pour acheter des gros morceaux comme le bus, de belles voitures, vous n'aurez pas droit à ça.
vous aurez droit tout simplement aux chaînes musicales et aux petits trucs. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à la radio Capi de réagir sur cette question.
Voilà, on a passé votre réaction, cher auditeur. Donc, il contredisait un peu les réponses du directeur de l'OFIDA. Pour vous, on est là, et docteur Janine Itamba est là pour vous dire quelques bons conseils par rapport à la méningite. Docteur Janine Itamba, bonjour.
Bonjour.
Je vous en prie. On parle méningite, on ne sait toujours pas par quoi c'est causé. Quelles sont les causes de la méningite?
Bon, les causes sont diverses. Nous avons les méningites aiguës et les méningites chroniques. Concernant les méningites aiguës, nous avons comme germes responsables bactéries, notamment les méningocoques qui représentent 80% de méningites, les pneumocoques, l'hémophilie, l'influenza, les stéphocoques, les chérichacoles, les staphylocoques. Mm-hmm. On a également les virus, les parasites et on note également certains mycoses. Mm-hmm. Pour le méningite chronique, nous notons des causes mycosiques, bactériennes, virales, parasitaires. Et les processus malins aussi occasionnent quelquefois la méningite chronique, notamment les cancers du sein, mm-hmm. du poumon et les cancers des cellules gliales, donc du cerveau.
Mm-hmm. Mais là, souvent, on a du mal à comprendre comment déceler ça. Est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui vous permettent de savoir qu'il s'agit d'une méningite et pas d'autre chose?
Oui, oui, il y a des signes cliniques, surtout pour la forme classique. Mm. Chez l'adulte ou le grand enfant, nous avons ce qu'on appelle le syndrome méningique, qui est caractérisé par la raideur de la nuque, mm-hmm. les signes de Kerning, les signes de Budinski, l'opistotonos, ça c'est en rapport avec la forme classique. Mm-hmm. Et la forme...
Il y a des formes plus compliquées, plus spécifiques.
Oui, mm. Donc là nous avons les syndromes infectieux et puis les syndromes...
Autre syndrome. Mais ce qui se passe, ça va vous revenir tout à l'heure. Comment on traite la méningite? Ça se traite comment?
Le traitement de la méningite est déterminé à partir de l'âge du patient. Mm-hmm. Oui.
Parlons de plus petits, des enfants par exemple.
Des enfants. Oui. Les enfants de moins de 3 mois par exemple.
Oui.
Avant l'identification du germe, on peut donner l'ampicilline, mm-hmm. à la dose de 100 à 200 mg par kilo par jour, la gentamicine. Donc l'ampicilline associée à la gentamicine, mm-hmm. l'ampi de 100 à 200 mg par kilo par jour, mm-hmm. et la gentamicine 5 à 7 mg par kilo par jour pendant 7 jours. Mais après l'identification du germe, il faut adapter, mm-hmm. selon la sensibilité du germe à l'antibiotique. Mm-hmm. Vous adaptez l'antibiothérapie.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et lorsqu'il s'agit des personnes adultes?
Les adultes et les enfants de plus de 3 mois,
oui.
là on donne la... Si le germe n'est pas mis en évidence, mm-hmm. on donne l'ampicilline et chloramphénicol associé pendant 10 jours.
Voilà.
Et s'il y a échec, on peut aller au céphalosporine de 3e génération. Mm-hmm. Toutefois, si on détermine les germes, il faut suivre la sensibilité
Il faut retenir qu'il n'y a pas question aux gens de recourir à l'automédication, il faut consulter un médecin.
Oui, il faut consulter le médecin parce que si on soigne mal la méningite, ça donne beaucoup de complications, surtout chez l'enfant.
La paralysie notamment.
La paralysie, la perte de langage, mm-hmm. surdité,
ouais.
L'hydrocéphalie chez les petits enfants, mm-hmm. même une persistance de la fièvre et puis la résistance à l'antibiothérapie.
Très bien. Merci beaucoup, Dr. Janine Itamba. On reviendra au conseil en Lingala dans une prochaine édition pour les mamans qui nous écoutent.
Ok, merci beaucoup.